Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Ah ben non, c'est fini, j'y vais plus, hein.
Avec cette voix et cette gouaille reconnaissable entre mille, ce plaisir de la provocation, cette façon de mettre ses grands pieds dans le plat en permanence, il était un clown et le revendiquait. Mais tout le monde sentait qu'il était bien plus que cela. Coluche, puisque c'est de lui que l'on parle, vous l'avez compris, avait aussi ses fissures et elles viennent peut-être de l'enfance. Coluche, ou plutôt Michel Colucci, est né en 1944 dans une famille populaire et a grandi à Montrouge au sud de Paris. Le premier drame de sa vie intervient quand il n'a pas 3 ans, lorsque son père meurt, tué par une poliomyélite. Coluche grandit avec sa mère Monette, qu'il élève seule. Coluche comprend vite que l'école n'est pas faite pour lui. Il touche un peu à tout, bricole ici ou là, et aligne les petits boulots sans conviction. Il frôle les frontières de la délinquance, mais il a faim d'autre chose. Coluche veut échapper à la grisaille de la banlieue parisienne, sortir des cités populaires de Montrouge et tout faire pour échapper à l'usine, tout donner pour « gauler le système », comme il disait. Alors Coluche commence à traîner dans le petit monde plus ou moins fauché du théâtre et de la chanson. Il fait des petits tours de chant dans les cabarets du quartier parisien de Sainte-Geneviève. Il croise Georges Moustaki, qui va lui donner un coup de main dans ses années de vache maigre, mais surtout Romain Bouteille, qui nous a quittés, lui, il y a quelques jours. Il était acteur et chanteur, figure du mouvement libertaire et anarchiste des années 60 et 70, et surtout fondateur du célèbre Café de la Gare, l'un des premiers grands cafés-théâtres parisiens. Coluche a 25 ans, il est encore tout mince, et il fait partie de l'aventure dès le début avec Patrick Devers, Miu Miu, Martin Lamotte, vite rejoint par Josiane Balasco, Thierry Lhermitte et bien d'autres. C'est là, avec Romain Bouteille, que Michel Colucci devient Coluche. C'est là aussi qu'il donne vie à ces personnages qu'il aimera tant incarner. Ces beaufs, plutôt bonnes pattes au fond, mais toujours en colère. Une colère qui les rend un peu bêtes, un peu limités, un peu racistes, un peu alcooliques, et surtout désabusés de tout, écœurés par une société qui, et c'est ce que veut montrer Coluche, les traite mal et les méprise. Le monde du café-théâtre navigue entre le comique et l'absurde, le rire et la colère, l'envie de tout envoyer bouler. Coluche est l'une de ses plus belles figures, avec un caractère de cochon doublé d'une capacité de travail incroyable. Il apprend, il observe, il imite. Et un jour, il se lance avec un sketch qui deviendra légendaire. C'est l'histoire d'un mec.
Vous la connaissez, non? Non, dites-le, parce que quand les gens la connaissent, ça prend de l'air d'un con.
Ce sketch, les Français le découvrent pour la première fois à la télévision le 19 mai 1974. Valéry Giscard d'Estaing vient de remporter l'élection présidentielle. Le perdant, François Mitterrand, doit s'exprimer. Il est en retard, alors il faut meubler. Que sa carrière démarre avec cette histoire d'un type incapable de raconter correctement une blague, c'est assez ironique. Mais Coluche ne fera pas vraiment dans l'ironie. Il veut évidemment faire rire, mais il veut aussi secouer, réveiller le public. Et pour ça, il use d'un langage qui fait frémir la bonne société. Coluche est grossier, et il l'assume parfaitement, grossier donc, mais jamais vulgaire, comme il le disait. C'est aussi à cette époque, au Café de la Gare, ou sur la scène du vrai chic parisien, café-théâtre qu'il a lui-même lancé, qu'il peaufine cette silhouette de clown rondouillard, avec sa salopette piquée aux fermiers américains, ses grosses chaussures jaunes, sa coiffure en pétard, ses joues et son nez maquillé en rouge. Coluche reprend tous les codes du cirque, tous les codes du clown, et ce clown génial va faire rire la France entière. Repéré par l'impresario de Claude François, Paul Lederman en personne, Coluche fait une ascension fulgurante. En 10 ans, il devient le comique préféré des Français. Il est partout, sur scène, à la télévision, à la radio, et ses sketchs font rire la France entière. Rire jaune, parfois. Il faut dire que tout le monde en prend pour son grade. Les policiers, les journalistes, les hommes politiques, les profs, les parents dépassés, les jeunes. Mais pendant qu'une partie de la France tord le nez, l'autre est plié en deux par cet irrespect total pour tout ce qui ressemble à de l'autorité. Parfois débonnaire, le clown Coluche n'hésite pas à briser les conventions sociales pour mordre les mollets des puissants. Et cela fonctionne. Son rapport à la radio en est un bel exemple. Sur l'antenne d'Europe 1 à la fin des années 70, il s'est bien amusé en animant pendant une année avec Gérard Lanvin, Robert Villard, accompagné de Maryse Gildas, On n'est pas là pour se faire engueuler, où la déconne, les parodies, la provoque avaient toute leur place.
On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé.
Alors merci, c'était donc Dionys Fort qui nous a passé le relais, vous avez vu ça? Tony Sparb. Ça y est, on est peinard à l'Europe, hein, les mariés. Hein. Parce qu'avant, je passais dans les couloirs, vous voulez accrocher tout le monde, maintenant on est tranquille. Ça y est, trouvé un mec. Alors là, on est à l'abri. Alors dites-nous, alors ça nous fout une merde pas possible, ça, parce qu'il y a... Alors il reste qui alors? Denis Pop, ça y est, je la raye. Hein. Elle est
chargée.
Alors il nous reste Mourouzi, qu'est-ce qu'on peut faire de ça?
Moi, rien.
Moi, je suis pas libre en ce moment.
T'es pas libre? Parce que Mourouzi devait buter Mireille Mathieu, mais finalement, il en veut plus. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste? Daniel Gilbert avec Jacques Pierre, ça va pas fort non plus.
Non, ben...
Faudrait téléphoner, peut-être demander si Daniel Gilbert serait d'accord pour épouser Mourouzi.
Ouais,
on va peut-être essayer de refaire les coupes.
Si je n'étais pas là pour se faire engueuler, bien que les relations n'aient pas toujours été simples avec la direction de la station, c'est sur une autre station que Coluche va faire pour la première fois les frais de sa liberté. RMC, où il est resté en tout et pour tout 15 jours en 1980. On lui avait demandé une seule chose, ne pas se moquer, et je le comprends, de la famille princière de Monaco qui possédait à l'époque une partie de la station. Raté. Et oui, il dit cette phrase que, évidemment, je suis obligé de vous dire,
c'est l'histoire,
qui me fait mal.
Oui, ouais. Ouvrons les guillemets.
Bonjour, nous sommes en direct du Rocher aux putes. Oui, pendant les deux courtes semaines d'antenne, Coluche n'a fait que railler et moquer la principauté, installant une bonne fois pour toutes son humour à la fois populaire et bagarreur, un peu à la manière de Harakiri, de son ami Reiser ou du professeur Choron. Mais si on lui a coupé le micro, le clown n'a pas fini de parler. Il a quelque chose à dire et cela va entraîner Coluche dans une drôle d'histoire. Ou alors là, c'est fini de rigoler. Tout commence le 30 octobre 1980. Ce jour-là, faussement endimanché dans une veste queue de pie sur sa salopette et d'une écharpe tricolore, Coluche déclare sa candidature bleu-blanc-merde. Il a bien l'intention de s'amuser au départ, comme l'annonce son slogan de campagne qu'il a imaginé avec Romain Goupil, son ami avec qui il a déjà travaillé au cinéma ou sur RMC et qu'il a incité à se lancer. « Avant moi, la France était coupée en deux. Avec moi, elle sera pliée en quatre. » Coluche n'a pas beaucoup de respect pour les hommes politiques, c'est le moins qu'on puisse dire. On se souvient de sa formule « La moitié des hommes politiques sont bons à rien, les autres sont prêts à tout ». L'idée de perturber le duel annoncé entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand l'amuse. Ce que Coluche n'a pas prévu, c'est que beaucoup de gens se retrouvent dans l'usure et la colère qui perce derrière ces blagues. La France est en crise, beaucoup de gens ne vont pas bien, et Coluche incarne cette envie de tout mettre par terre. À la mi-décembre 1980, un sondage le crédite de 16% d'intention de vote. Dans les états-majors des partis classiques, on commence à s'affoler et petit à petit, la blague vire au vinaigre. Les pressions se multiplient, le stress monte jusque dans son entourage. Mais lorsqu'il finit par renoncer, le 16 mars 1981, le balancier revient dans l'autre sens. Beaucoup de comités de soutien se sentent trahis et Coluche reçoit des messages très durs. Cette fois, le rire du clown s'étrangle alors qu'il connaît en même temps une série de drames personnels. Son divorce avec sa femme Véronique, le suicide de son ami Patrick Devers, puis la mort d'un autre proche, le dessinateur Reiser. Ces épreuves le blessent profondément et le font sombrer dans toutes ses addictions mauvaises pour la santé. Quand il reçoit en 1984 le César de meilleur acteur pour son rôle dans Ciao Pantin de Claude Berry, il n'a pas beaucoup de différence entre lui et son personnage de Lambert, un garagiste brisé par la vie. Coluche va pourtant se relever et s'engager pour SOS Racisme ou Emmaüs. Il retrouve aussi le plaisir de la radio ici sur Europe 1 avec l'émission « Il y en aura pour tout le monde ». Et c'est sur notre antenne qu'il lance une petite phrase le 26 septembre 1985.
J'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours, s'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris, par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France. Je lance l'idée comme ça, s'il y en a qui nous écoutent et que ça intéresse, ils nous écrivent.
Cette petite cantine gratuite deviendra les Restos du Cœur. À cause d'un putain de camion comme le chantera Renault qui a tourné au mauvais moment alors qu'il était en moto sur la route de Valbonne dans les Alpes-Maritimes, il y a 35 ans presque jour pour jour, Coluche ne verra malheureusement pas l'ampleur que va prendre son idée. Mais à ses funérailles, c'est sans doute l'abbé Pierre qui a le mieux résumé ses convictions. Si vous entendez quelqu'un dire qu'il ne respectait rien, dites-leur que ce n'est pas vrai, j'en suis témoin.
Europe 1, historiquement vôtre.